On va commencer avec la politique américaine parce que, mine de rien, on se rapproche de l'assermentation du nouveau président Biden.
Dans moins que 48 heures, il sera assermenté. Ça va être chose faite.
Et là, il y a des images qui nous parviennent des États-Unis. Je t'en ai fait suivre ce matin, là, tirées du Huffington Post, qui font peur. Ça fait peur.
Oui, c'est très, très épeurant. Et tu sais que la semaine dernière, ou il y a deux semaines, un peu plus d'une semaine, là, quand il y a eu l'assaut du Capitole, on a découvert qu'il y avait de nombreux militaires, enfin, qu'il y avait plusieurs militaires qui n'étaient pas en devoir, là, qui avaient participé à la manifestation.
Militaires, policiers, hein?
Policiers, et aussi des membres de la police du Capitole, dont certains ont été suspendus, on ne connaît pas encore les détails. Ben là, ça devient si grave que le FBI a entrepris hier de vérifier les antécédents des 25 000 membres de la Garde nationale qui sont présentement déployés à Washington.
Ben voyons donc.
Ah oui, complètement.
Parce qu'ils craignent un attentat de l'intérieur.
Un attentat de l'intérieur. Il faut savoir que la Garde nationale, c'est un peu comme la réserve militaire au Canada, mais pas tout à fait, là, mais disons que c'est un peu comme la réserve militaire au Canada. Et ils viennent de tous les coins du pays. Et je pense pas qu'on a jamais été confronté à une sorte de clash idéologique comme celui-là. Alors là, il faut voir si, tu sais, je veux pas être un prophète de malheur, mais qui a oublié les images d'Anwar el-Sadat qui s'est fait assassiner par sa propre armée, les images d'Indira Gandhi qui a été assassinée par ses propres gardes du corps. Alors on veut pas de niaiseries et de conneries de ce genre. Alors, le major général Walker, qui commande la Garde nationale pour tous les États-Unis, a dit qu'il fallait absolument passer ce test-là, même s'il se dit confiant qu'il n'y en a pas trop.
Qu'il n'y en a pas trop? Ça s'en prend juste un, c'est ça le problème?
Ouais, ben, il y en a certainement au moins un, ça, tu peux être sûr de ça.
Mais les photos qu'on a vues, Luc, de ces citoyens armés jusqu'aux dents, qui ont commencé à faire le pied de grue devant un certain nombre de parlements d'État, là, de Capitole, par exemple, il y a des hommes armés, des miliciens armés devant le Capitole de l'État de la Caroline du Sud, de l'État de l'Ohio, de l'État de l'Oregon, de l'État de la Pennsylvanie. Et c'est des hommes, parfois des femmes, mais surtout des hommes, qui sont, ils ont le même équipement qu'un militaire. Ils sont plantés là, c'est des partisans de Trump ou du Deep State ou d'une
des
forme...
Des opposants au Deep State, tu veux dire?
Oui, d'accord, effectivement. D'accord. Mais des opposants aussi à la démocratie. À un moment donné, il y en a...
Des suprémacistes blancs, puis toute cette racaille.
On peut dire du monde, de façon générale, des gens de l'extrême droite, là, oui, qui ne reconnaissent pas la légitimité démocratique. Il y en a qui sont en train de larguer Trump, d'ailleurs, là-dedans, là, puis ils entrent en résistance contre la démocratie. Ils disent que les élections, c'est toujours frauduleux, donc ils croient pas là-dedans. Honnêtement, Luc, j'ai regardé ces images-là, puis je me disais, à un moment donné, on peut pas écarter qu'il va y avoir un moment de vérité, là, où les forces armées légitimes vont devoir désarmer ces forces-là qui pourrait devenir honnêtement une menace à la sécurité intérieure des États-Unis. Là.
Ah ben c'est clair, et c'est ce moment-là que tout le monde redoute. Imagine qu'on en identifie une quinzaine qui arrivent là, habillés comme des militaires avec des AK-15, pardon, comment ils les appellent?
Les AR-15. Ouais,
qui est l'équivalent des M16, l'armée américaine.
Ouais.
Et là, il y a quelqu'un qui va dire « halt », puis il y a quelqu'un qui fera pas « halt », puis il va avoir un coup de feu. Ça peut arriver. Tu sais, ça peut arriver.
Mais ça aurait pu arriver lors de l'assaut du Capitole.
Mais pendant ce temps-là, Trump, lui, il demeure cloîtré à la Maison-Blanche, où il est à mettre la dernière main à une liste de gens qui recevront la grâce présidentielle.
Oui.
Est-ce qu'il va donner le pardon présidentiel aux membres de sa famille, à son gendre Jared Kushner, y inclus? Est-ce qu'il va donner la grâce présidentielle à des gens qui ont participé aux manifs de la semaine dernière? À qui va-t-il donner la grâce présidentielle? C'est son dernier geste. Hein?
Est-ce qu'il va se le donner à lui-même?
Ah, ça, c'est la grande question. Il paraît que tous les avis qu'il a été chercher, y inclus chez des gens qui lui sont favorables, lui ont dit de ne pas faire ça. Alors, on va voir. Et souviens-toi aussi que M. Trump, il se prépare à quitter la Maison-Blanche le matin de la sermentation. Tu sais, ce sont des détails protocolaires, mais c'est pas rien. Normalement, Le nouveau président est assermenté en présence du président sortant. Mm-hmm. Ils s'en vont ensemble à la Maison-Blanche et c'est comme dans un geste de courtoisie naturelle, le président, qui est maintenant Biden, rendu à ce moment-là, offre au président sortant d'utiliser une dernière fois Marine One, l'hélicoptère présidentiel, et Air Force One, l'avion présidentiel. Trump s'est dit « Je ne vais pas à son assermentation, alors Biden va peut-être être tenté de m'enlever ce privilège-là, alors je vais partir avant. Ouais. » Au moment où je vais partir, je vais être encore le président et le commandant en chef des forces armées américaines. Mm. Il a été plus loin que ça. Il a exigé, et il paraît que c'est en train de se mettre en place, puisque c'est lui le commandant en chef, d'avoir un départ avec les grands honneurs militaires, ce qui se fait même pas. Là. Normalement, là, si tu regardes l'assermentation de Trump ou l'assermentation d'Obama, il y a évidemment toujours une présence militaire autour du président, mais il n'y a pas un défilé, il n'y a pas les grands honneurs. Le pageantry, comme on dit, n'est pas là. Là, il l'a exigé. Il se peut que ça se fasse à Andrews Air Force Base avec la fanfare, puis les gardes d'honneur et tout ce que tu veux.
Il aura profité du pouvoir jusqu'à la fin.
Oui, et moi, ben profiter, ouais. Il veut partir avec les grands honneurs. Je suis un grand chef. Mm. Moi, je profite de l'occasion pour te dire aussi que Mike Pence, le vice-président, il y a des gens qui se posent toutes sortes de questions, mais la vérité est qu'il est le seul à avoir collaboré à la transition. Il a lui-même appelé Kamala Harris, la vice-présidente qui lui succède, pour lui offrir de s'il pouvait l'aider. Il a, en quelque sorte, accompli les devoirs qui normalement devraient être ceux d'un président, comme aller s'adresser aux forces armées américaines, aller visiter les soldats, et participer également aux meetings qui incluent des membres de l'équipe de transition de Biden et des membres de la Maison-Blanche qui ont travaillé sur le cas du coronavirus. Mm. Alors Pence, jusqu'à maintenant, on doit le dire, et ceci va jusqu'au début de la présidence de Trump. Oui, il s'est fermé les yeux, puis il s'est fermé la trappe concernant un certain nombre de conneries, mais il a toujours été un gentleman. Et ça, c'est en train, probablement, et c'est clair que c'est un homme qui a des ambitions politiques pour la prochaine fois.
Oui.
Est-ce que la gang à Trump va se tourner totalement contre lui et rendre la chose impossible, ou alors est-ce qu'il sera devenu plus attrayant pour les électeurs dits indépendants, qu'on appelle communément le swing vote?
Oui.
Alors moi, je te le dis, là, dans les circonstances incroyables que nous vivons, je trouve que Mike Pence fait honneur à sa fonction. Voilà. Et là, je voulais ajouter un autre morceau.
Heureusement qu'il y a... Il y a cette espèce. Alors, et l'autre chose, il va assister, j'allais dire, oui, il va assister justement à la sermentation. Ouais. Donc, l'espèce de. Le passage du témoin va se faire là, entre les deux administrations. Là.
Voilà, tout à fait. Ouais, et là, l'autre nouvelle qui attire mon attention, c'est qu'une femme de 22 ans, elle a participé aux manifs, à la manif sur le Capitole. Elle a volé le portable, l'ordinateur portable de Nancy Pelosi. Speaker of the House.
Oui.
Et là, elle s'est tournée, puis elle a essayé de le vendre aux Russes.
Mais voyons donc.
Complètement. Elle vient d'être arrêtée par le FBI. Elle s'appelle Riley June Williams. Ils font enquête présentement. Il y a déjà des accusations portées contre elle qui concernent sa participation à cette manif. Mais le reste est sous enquête, puis il semble que c'est sérieux, qu'il y aurait même des images où tu la vois prendre le portable et tout ça. Ils ont essayé de le vendre aux Russes, écoute, les grands patriotes.
Ben oui, j'allais dire. Hein? J'ai une question d'un auditeur, d'une auditrice, Luc. S'il y a destitution de Trump, puis on peut pas l'exclure, là, je veux dire, la mise en accusation a été votée, puis la procédure va aller de l'avant, est-ce que les grâces présidentielles de Trump sont annulées? As-tu la réponse à cette question-là? Elles sont pas annulées?
La réponse, c'est non.
Non?
La réponse, c'est non. Et plus on va approcher de ce moment-là, parce qu'il paraît qu'on pourrait commencer le procès en destitution mercredi, le même jour que la sermentation au Sénat américain.
Oui.
Plus on avance, plus ça paraît être une très mauvaise décision stratégique. D'abord, juste l'idée que je vais destituer quelqu'un qui n'est plus président. C'est dur, tu sais, de destituer quelqu'un qui n'est plus là. Mm-hmm. Bon, juste ça, il y a quelque chose d'un peu absurde dans ça. Et en plus, ça vient compliquer le début du mandat de Biden, parce que tout le temps consacré à ce procès au Sénat, qui sera présidé par le juge en chef de la Cour suprême, c'est autant de temps qui ne sera pas consacré à adopter les mesures économiques, entre autres, que M. Biden veut mettre de l'avant.
Les mesures de relance, oui.
Comme 1 900 milliards de dollars.
Les chèques, il veut envoyer des chèques, lui.
Ouais. Il veut envoyer des chèques, puis il veut prolonger la période d'assurance chômage, puis enfin un certain nombre de choses.
Bon.
Alors, on continue de suivre la situation.
Très bien.
Je te parle de COVID un peu,
Bernard? Un petit peu, Luc, un petit peu. Mais ramasse-moi 2-3 chiffres importants, parce que j'aimerais vraiment ça que tu prennes une minute pour nous parler d'Alexis Navalny, là, qui a été écroué par Poutine. Là.
Alors, au Québec, 1634 cas supplémentaires, 32 décès. Donc, ça baisse et je m'en réjouis. Mm-hmm. Je m'en réjouis. Mm-hmm. Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 31. Autre bonne nouvelle, 9691 vaccins administrés dans les 24 dernières heures. 78,26% de tout le stock a maintenant été administré à des personnes, à des clients. Bon, voilà. Un mois après le début du blitz de vaccination, ça c'est une bonne nouvelle aussi, les trois quarts des 40 000 aînés vivant dans les CHSLD ont été vaccinés. En Ontario, ce sont plus faibles nombre de nouveaux cas de coronavirus depuis le 1er janvier, mais c'est encore grand, 2578 nouvelles infections. Aux États-Unis, on est à presque, on doit l'être au moment où l'on se parle, 400 000 morts. Hein, il a fallu 12 semaines pour qu'on en arrive à 200, de 200 à 300. Mm. Là, il a fallu quelque chose comme 5 semaines pour passer de 300 à 400 000.
Hey, tu te rappelles, quand on avait parlé des prévisions de Fauci, il parlait de 240 000. C'était son scénario. Puis je me rappelle, on l'avait utilisé dans l'émission, Luc. On avait discuté, puis on trouvait ça astronomique, 240 000, on se disait, voyons donc, vont-ils se rendre à 240 000 morts? Ils sont rendus à 400 000.
Oui, bien là, on nous dit que vers la mi-février, ils auront atteint 500 000 et qu'on va se rendre probablement jusqu'à 567 000.
Ça va être ça, l'héritage de Trump.
Oui, ça va être ça, l'héritage de Trump. Une hécatombe. Alors, parlons de Navalny.
Navalny, alors, rappelle-nous vite, dissident politique anti-Poutine. Hein?
Ben, c'est un leader de l'opposition russe à Poutine.
Ouais.
À un moment donné, il voyageait à l'intérieur de la Russie, puis dans un aéroport, il y a quelqu'un qui l'a empoisonné au Novichok, qui était un poison assez particulier, mis au point par les espions russes. On a même su que ça avait été placé dans ses sous-vêtements. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Il est très, très chanceux d'être en vie. Il s'est retrouvé à l'hôpital à Berlin.
C'est ça, les Allemands l'ont sauvé, oui.
Oui, puis ils ont obtenu deux confirmations de deux laboratoires que c'était bel et bien le Novichok. Et là, il a décidé de rentrer à Berlin. Alors, Navalny, 44 ans, il est arrivé ce matin à Berlin où l'attendait la police, qui a décidé de le mettre en prison immédiatement. Pour au moins jusqu'au 15 février.
À Moscou, quand il est arrivé à Moscou.
Ouais,
ils l'ont arrêté.
Tout de suite en arrivant
à l'aéroport. Ouais.
Alors, il avait passé 5 mois en Allemagne. Voilà, il est dans un.
Ils l'ont arrêté en vertu de quel chef d'accusation, Luc? Est-ce qu'on.
Danger à la sécurité nationale, je crois.
Imagine-toi.
Là, ben, ce gars-là, je ne sais pas s'il va survivre à tout ça, là, parce que.
Mais il faut être. Honnêtement, le mot courage là prend tout son sens.
Je sais pas si c'est du courage. Man. Des fois, je me demande si c'est pas être téméraire. Là. Quand tu sais que quelqu'un va t'assassiner.
Oui, mais là, tu prends. C'est parce que là, ce qu'il dit à Poutine, c'est tu me feras pas taire. Je vais me tenir debout devant toi.
Oui, mais je pense qu'il était plus utile aux dissidents russes ou à l'opposition russe en étant à Berlin où il pouvait parler aux médias tant qu'il voulait dans une prison à Moscou.
Les Russes, tu sais, ils ont tué des dissidents à l'extérieur de leurs frontières.
Ah, ben oui, à Londres.
Tu comprends? Alors, si Poutine veut l'assassiner, il va l'assassiner peu importe là où il se trouve. Le fait qu'il revienne en Russie, je trouve qu'il s'impose comme une figure politique courageuse qui pourrait un jour peut-être aspirer à succéder à Poutine. Moi, je pense qu'il devient la grande figure démocratique là, vers laquelle les pro-démocrates les pro-démocraties russes vont se tourner. Là. Je sais pas.
Je comprends ton raisonnement. C'est tentant de penser comme ça. Puis on peut décider que c'est un héros. Mm. On peut aussi décider, mais se poser des questions. Là.
Ouais, conclure qu'il a...
Ouais. Je me soulève des questions à moi-même.
Ben oui, non, c'est les deux arguments se valent. On se reparle, mon cher Luc, on va se parler de hockey vers la fin de l'heure. Hein?
On va parler de notre prochaine victoire.
Hey, mon gars, c'était... Oh, regarde, on va en parler tout à l'heure, là, mais et que c'était quelque chose, hein, samedi.
Ah,
oh, c'était magnifique. OK, on en reparle tout à l'heure. On s'en va à la pause parce que je veux vous parler tout de suite après là, des problèmes de la vue chez nos jeunes. Vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes. Beaucoup de jeunes qui sont touchés. On fait quoi? Restez là.